Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
6h04, nous sommes jeudi. C'est un jeudi assez pluvieux qui s'annonce et je vous résume ça là, pour cette journée du 9 juin. Alors, de la pluie qui va commencer ce matin, risque d'un orage au cours de l'après-midi, 10 à 15 mm de pluie de prévu et autour de 13 degrés. Alors, vous voyez, c'est une journée quand même assez fraîche avec du temps venteux. En soirée, on aura également un risque d'orage. La pluie devrait cesser seulement demain en après-midi. Donc, des épisodes comme ça de pluie. Soleil nuage par la suite, avec également des vents de 30 à 50 km/h. Maximum prévu, 20 degrés. L'aperçu pour la fin de semaine, dans les deux cas, soleil nuage, peut-être un peu de pluie prévu, mais dimanche en fin de journée, 24-25 degrés. Mais c'est un assez beau week-end qui s'annonce. D'abord, un mot, vous venez de l'entendre, c'était hier la publication des sondages d'écoute radio de la maison Numéris qui confirme que la station que vous écoutez est la station numéro 1 à Montréal, au Québec, au Canada. On bat deux stations de Toronto. Et l'émission du matin est encore une fois l'émission la plus écoutée. Je vous remercie. Ça fait un peu redondant, peut-être que je me répète trop, mais à chaque fois, quand on prend connaissance des chiffres, et je veux pas vous faire la liste puis commencer une bataille, vous savez, différentes façons d'interpréter. Mais si j'avais à donner deux chiffres pour résumer l'émission du matin, entre 5h30 et 9h, on a 36 parts de marché et Radio-Canada a 19. Et cet écart-là, c'est un peu ce qu'on voit depuis, quoi, 2-3 ans, avec surtout le début de la pandémie. Et on était tous convaincus que ça allait un peu s'essouffler. Mais visiblement, la radio parlée, et j'inclus Radio-Canada, connaît une vague d'appréciation du public. Il y a un besoin, je pense, des gens d'obtenir de l'info. Puis on peut débattre puis discuter, là, mais il y a quand même une réalité. Il y a des contenus qui vous intéressent parce que vous êtes là puis vous écoutez quand même pas mal d'heures par semaine. Puis vous allez aussi récupérer ce que vous manquez sur les différentes plateformes. C'est plus dur pour la radio musicale, mais pour la radio parlée, c'est un sondage qui s'ajoute à d'autres sondages qui viennent illustrer cette tendance. Et donc, je veux vraiment vous remercier. C'est extrêmement touchant de savoir que vous êtes là. Puis, il arrive des moments dans la vie, quand on fait l'émission comme ça, puis bon, on est dans notre bulle avec l'équipe, puis quand je sors sur la rue, puis je vous dirais que depuis que le masque est tombé, avant, ça me prenait 3-4 minutes, êtes-vous monsieur? Tu sais, bon, oui. Et je vous donne un exemple. J'étais à un resto, et il y a un jeune homme, à première vue, il n'a pas 30 ans, puis il dit, écoutez, je ne veux pas vous déranger. Il travaille, je ne suis pas supposé faire ça. Mais je vous écoute tous les matins avec ma blonde, puis là, il y a des compliments. Puis après ça, il me dit, je m'excuse de vous avoir dérangé. Tu ne me déranges pas. C'est touchant, et je me dis, on est capable de parler à d'autres générations. Puis c'est ça qui est le fun, d'avoir des gens qui, comme moi, sont dans la soixantaine, des gens qui sont dans la quarantaine, des gens qui ont 25 ans. C'est toujours qu'on s'intéresse à la radio parler quand on commence à payer des taxes et des impôts. Et je pense que c'est un peu ça aussi. Bref, merci beaucoup de votre présence chaque matin, de votre fidélité. Puis je remercie également toute l'équipe qui, chaque jour, travaille pour vous amener, on le souhaite en tout cas, le contenu qui est le plus pertinent. On parlait avec Bénédicte de ces trois événements, encore une fois, qui impliquent des coups de feu. On a eu les rapports cette semaine, SPVM, police de Laval, qui confirment, dans les deux cas, une augmentation des crimes contre la personne. Et si je regarde le rapport annuel du service de police de Laval qui a été rendu public hier, c'est une augmentation d'épisodes de coups de feu de 30 %. Et il y en a donc de plus en plus. On retrouve ça beaucoup dans le secteur Chomedey. phénomène de gang de rue, un crime désorganisé. Et on l'a vu, là, quelqu'un qui reçoit une balle à Verdun, quelqu'un qui, en fait, c'est comme un échange de coups de feu entre deux véhicules en mouvement, vous imaginez, là. Et il n'y a pas eu de blessé, ou en tout cas, il n'y a personne qui s'est rendu dans un hôpital. Alors, ça amène une réflexion sur comment combattre cette criminalité. On a beaucoup parlé des escouades qui ont frappé, qui ont saisi des armes, tant mieux. Je pense que les frontières demeurent encore assez poreuses, contrairement à ce que laisse entendre le gouvernement fédéral. Mais... Et le fait aussi que les réseaux sociaux sont devenus vraiment une plateforme où les groupes s'affrontent avant de se faire face dans la rue. Et je le dis tout le temps, il n'y a pas de raison, il n'y a pas, c'est pas une guerre de territoire. T'es présent, t'es pas supposé être là. T'es à Rivière-des-Prairies, puis Rivière-des-Prairies, c'est mon turf. Qu'est-ce que tu fais ici? T'sais? Puis je vais t'intimider, puis je vais t'envoyer un message, puis ça passe par des coups de feu. Alors, on va parler avec la police de Laval un peu plus tard ce matin. Il y a aussi tout le débat concernant la drogue du viol. Il y a eu cette motion hier à Québec. Motion unanime, d'ailleurs, pour faire en sorte que le dépistage soit élargi. Parce qu'on a découvert, évidemment, avec un cas dont Elisabeth nous parlait il y a quoi, deux semaines, de la chanteuse Ariane Brunet, qui est tombée complètement assommée après avoir consommé et s'est rendue à l'hôpital de Verdun. Il n'y avait pas de dépistage possible. Donc, Manon Massé qui a présenté cette motion qui demande de s'assurer que toute personne qui fait la demande pour un test puisse être dépisté, que le matériel nécessaire soit disponible dans les hôpitaux. Puis dans la presse, ce matin, on parle de mesures qui varient d'un bar à l'autre. Il y a des bars qui prennent ça au sérieux. Puis on est dans le week-end du Grand Prix qui s'en vient, là, on peut ajouter ça. Mais d'autres un peu moins dans la protection de leur clientèle. Ce matin, il y a une étude qui va sans doute contribuer à un débat. C'est une étude de l'Institut du Québec qui démontre et là, on s'est basé sur la rémunération de 30 000 Québécois diplômés en 2013 et l'évolution des salaires pendant 5 ans. Et ce qui frappe dans cette étude, et on va parler avec une des auteurs tantôt, c'est que dès qu'une femme obtient son diplôme au cégep ou encore à l'université et qu'elle entre sur le marché du travail en même temps qu'un homme qui a les mêmes qualifications, dans le même genre d'emploi, en partant, pas juste plus tard, là. En partant, l'écart moyen est de 9 %. Après 5 ans, elle gagne 16 % de moins que les hommes. Et quand vous regardez les travailleurs les mieux payés, on se rend compte que l'écart en faveur des hommes est de 13 % après un an. Ça, c'est vraiment pour les employés mieux payés. Également de 19 % après 5 ans. Quelles sont les explications? Il peut y en avoir plusieurs. Peut-être que des femmes quittent le marché du travail temporairement, congé parental, donc ça a un impact sur les conditions de travail. Il y a visiblement encore une certaine forme de discrimination. Il y a beau avoir des programmes d'équité. Il en demeure pas moins que... Et je n'ai pas la réponse à ça. Il y a quelques pistes de solutions, quelques pistes de réponses qui sont données. Parce qu'il faut revoir, par exemple, l'aménagement, je dirais, de la charge entre les parents. Est-ce qu'un père doit s'impliquer, même s'il s'implique plus, est-ce qu'il doit en faire plus, est-ce qu'il doit prendre un congé plus long, pour ne pas affecter le plan de carrière puis les revenus de sa conjointe? Vous avez tous et toutes des expériences, ça va être intéressant d'en parler plus tard ce matin. Donc, c'est dans la presse que vous retrouvez ça, puis on a eu également le temps de lire ça tantôt. Puis un mot sur l'histoire du maire de Sorel, c'est à n'y rien comprendre. Le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, qui est tout un numéro là, quand on le voit aller. Alors, il est suspendu pendant un an parce qu'il a espionné le greffier de la ville. Il a placé un micro, puis là, il essaie de dire qu'il pensait qu'il avait le droit. La commission municipale du Québec l'a déclaré, donc, inhabile à siéger. Et lui, il a l'air à se promener comme si c'était pas ça, là. On a des échos de Sorel-Tracy, où M. le maire laisse sous-entendre qu'il conteste ça, puis que finalement, il pensait qu'il avait le droit de faire ça, lui, d'espionner, convaincu que son greffier était peu respectueux de la confidentialité, qui avait une forme de violation du secret professionnel. Autrement dit, j'ai fait ça parce qu'il trahissait le lien de confiance avec la ville. Puis on voulait lui parler ce matin, puis expliquer à Mme Lapointe qu'il est en train de rédiger un document, puis il va nous envoyer ça, une lettre à ses citoyens, puis qu'après ça, il va être très heureux de nous parler. Quand même assez étonnant que tu puisses essayer de défendre l'argument que « Oui, oui, je peux mettre des micros, puis je peux filmer, puis je peux écouter mes employés. » On a vu des patentes comme ça à la Ville de Montréal, dans des pratiques assez douteuses à l'époque du maire Gérald Tremblay. J'ai parlé plus tôt avec Tetiana Ogarkova, journaliste qui est en Ukraine. Faisons le point ce matin. D'abord, pour vous dire que les Russes tentent d'établir un premier corridor reliant directement la Russie et l'Ukraine sous contrôle russe. Donc, un corridor avec une espèce de pont également permettant l'envoi d'équipements militaires, l'envoi de marchandises aussi. Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire ce matin. Le deuxième, dans la région chaudement disputée du Donbass, les Russes qui concentrent leurs efforts à cet endroit font face, je vous dirais, à ce qu'on voit un peu selon les différents reportages, à une certaine résistance, peut-être surprenante de la part des Ukrainiens. Mais pour l'essentiel, cette région qui était déjà sous influence russe va le demeurer et les Russes sont en train, malgré tout, c'est plus long, mais ils sont en train de s'installer. Et puis je reviens sur Mariupol. C'est ce que je discutais avec Tetiana, parce que cette ville, on le sait, a été massacrée, bombardée. Il y a des milliers de morts et là, il y a des enjeux, notamment d'épidémie de choléra. Voici ce qu'elle avait à nous dire.
Et bien sûr, sans les conditions sanitaires nécessaires, il y a des risques extrêmement élevés justement de cette maladie. Il n'y a pas d'hôpitaux parce que les hôpitaux ont été bombardés. Il n'y a pas de médicaments. Donc, les risques sont élevés. Selon les estimations de médecins sanitaires d'État ukrainien, il nous a dit que la choléra pourrait emporter encore 10 000 vies durant cet été seulement. La choléra a été constatée, était détectée à Mariupol il y a quelques années, donc c'est-à-dire que cette maladie peut justement se déclencher, mais avec les conditions d'une ville occupée justement, et on voit que l'armée russe, elle ferme la ville, elle ne n'autorise plus de sortie de Mariupol, ce qui peut bien sûr entraîner des risques pour les habitants à l'intérieur de la ville. Je rappelle aussi que selon les estimations du côté ukrainien, au moins 22 000 civils ont perdu leur vie durant les combats, y ajouter 10 000 qui risquent leur vie durant cet été à cause de maladies infectieuses.
Voilà pour notre bilan de l'Ukraine. On revient ici. Le Journal de Montréal nous dit ce matin que près de 550 employés de la justice au Québec ont démissionné dans la dernière année. C'est quand même énorme. Pénurie de main-d'œuvre, des gens qui partent, des postes non comblés, conflits de travail. Et tout ça, veut pas, affecte le rendement des tribunaux. Il manque de ressources. Les juges sont obligés de reporter des causes criminelles parce qu'ils n'ont pas le personnel de soutien nécessaire. J'avais posé la question au ministre Jolin Barrette qui me disait « Oui, oui, on est au courant de ça, c'est très variable d'une région à l'autre. » Mais on cite ce matin une procureure de la Couronne dans le Journal de Montréal qui dit que ceux qui restent n'en peuvent plus. Des agents de bureau qui cumulent des années d'expertise parlent ouvertement de démissionner. Ils sont embauchés ailleurs avec des salaires plus avantageux. Un système de justice qui, malheureusement, est encore archaïque. Et on voit ça, semble-t-il, un peu partout. Le phénomène touche l'ensemble du Québec. Et la crise est telle que les gens parlent ouvertement d'un système sur le point de s'effondrer. Puis on a beaucoup parlé aussi de l'accès à l'aide juridique. Il y a des grèves également. Il y a beaucoup de questions à poser sur le système de justice. Et on le voit ce matin avec tous ces départs puis ces postes non comblés. La vérificatrice générale, Mme Leclerc, a déposé hier son rapport. Elle nous apprend que Québec, Revenu Québec, laisse sur la table 365 millions en taxes non ramassées. Elle dit que la perception, ou en fait la non-perception de la taxe d'achat entraîne des pertes fiscales importantes pour le Québec, que c'est un phénomène qui s'accélère, et essentiellement, on parle de biens qui sont achetés à l'étranger et pour lesquels, normalement, Revenu Québec devrait percevoir les montants. On va lui parler ce matin. Mais le ministre a dit que la situation, quand même, montre que Revenu Québec est un leader, que c'est pas parfait. Parce que là, c'est une espèce de principe. Si tu achètes à l'étranger, on doit te charger les taxes, puis les taxes doivent être remises. Or, c'est pas tout à fait ça. Et Mme Leflaire trouve que Revenu Québec fait pas un travail bien, bien exemplaire. Entre-temps, à Ottawa, on est sur le point d'adopter la taxe sur les produits de luxe de M. Trudeau. C'est très spectaculaire, vous allez le voir, mais en termes de revenus, c'est pas grand-chose. Donc, des taxes additionnelles sur les voitures et sur les bateaux, par exemple, de 100 000 $ et plus pour ce qui est des véhicules, 250 000 pour les bateaux. Et là, on prévoit une taxe qui pourrait atteindre 20 % donc supplémentaire pour les montants additionnels. Je vous le dis, il n'y a personne qui va broyer pour quelqu'un qui s'achète une Lamborghini qui a un gros bateau puis qui ou une Porsche. Mais en même temps, c'est pas ça qui va remplir les coffres du gouvernement fédéral. Rapidement, dans les autres nouvelles, la presse ce matin, 8 élèves anglophones sur 10 de l'île de Montréal sont en immersion française au primaire et ça va jusqu'à 85 % du temps de classe qui se passe en français. Donc, c'est quand même une présence importante. Il y a une mère de famille aussi qui tentait, pour des raisons religieuses, tenez-vous bien, d'envoyer son enfant à une école anglaise, alors qu'elle n'avait pas le droit, puis elle a tenté de jouer la carte. Alors, le tribunal administratif du Québec qui a rejeté sa requête. Dans le devoir, toujours dans le domaine de l'éducation, on se rend compte que le secondaire, pour les élèves plus forts, et... ce qu'on appelle les élèves doués, ben c'est extrêmement difficile. Tu sais, on se soucie avec raison des élèves qui ont des problèmes, mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ont du talent puis qui ont l'impression de perdre du temps? Il y a un collège à Québec qui prévoit offrir, dès la prochaine rentrée, un parcours secondaire accéléré pour les élèves plus forts, une vingtaine de jeunes qui feraient l'ensemble du cours secondaire en 4 ans au lieu de 5. Peut-être au niveau de la performance, là, mais on peut se poser des questions sur la maturité. Les gars, ça devient mature moins vite. Alors, sauter une année au secondaire, là, ça peut être un enjeu important. Et vous dire aussi que Paul Saint-Pierre Plamondon, finalement, va prendre la parole lors de la soirée marquant le début de l'année en hommage à René Lévesque. M. Bouchard, qui est le président de la Fondation, prend la parole, François Legault prend la parole et M. Saint-Pierre Plamondon avait été comme oublié. Il en a parlé hier, puis finalement, on a décidé de l'inviter.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
7h27. Depuis le 1er juin, les ingénieurs à l'emploi du gouvernement du Québec sont en grève et on en retrouve évidemment énormément, c'est la majorité, au ministère des Transports. Ce qui fait qu'il y a des perturbations dans les chantiers du MTQ. Bien difficile de savoir combien de chantiers sont touchés. On a plusieurs versions. Quand vous parlez au gouvernement, ça demeure marginal, nous dit-on. Par contre, quand vous appelez à l'Association des constructeurs de routes et de grands travaux du Québec, 90 % des entrepreneurs membres ont à vivre des impacts de ce conflit de travail. Selon le syndicat des ingénieurs, 70 % des chantiers sont affectés. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises et de travailleurs qui sont touchés par cette grève des ingénieurs. Je vous présente mon invité ce matin, Nathalie Fleury, qui est vice-présidente d'entreprise Ployard 2000 Inc., et qui, normalement, devrait avoir plein de contrats exécutés avec le ministère des Transports. Madame Fleury, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arcand.
Parlez-moi d'abord de votre compagnie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, puis quels sont vos liens avec les chantiers du MTQ?
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on installe des garde-corps de pont sur les diverses structures au Québec, puis on installe aussi des glissières de sécurité Alors, nous, principalement, on passe à la fin des chantiers, quand les chantiers sont terminés. Alors, quand les chantiers ne démarrent pas, on ne travaille pas.
OK. Et quel est habituellement, là, quand votre saison commence quand? Vous gérez combien de chantiers à la fois? Disons, en temps normal, ça se passe comment pour vous?
Habituellement, quelque part autour de la mi-avril, on entreprend les chantiers qui ne se sont pas terminés l'année d'avant. Ça veut dire que de avril à début juin, à peu près, on a complété les chantiers qui avaient été mis en attente à cause de la période hivernale. Puis après ça, à partir du 1er juin, bien, on enclenche habituellement les chantiers qui sont commencés de l'année, qui étaient plus gros, par exemple. Bon an, mal an, aller à maintenant, on a peut-être une centaine de chantiers de fait. Il faut savoir qu'on fait des petits chantiers, surtout à ce temps-ci. Mais là, présentement, si on en a 20 ou 25 de fait, c'est beau.
Au lieu de 100?
Oui.
OK. Parce que il y a ces moyens de pression des ingénieurs, donc les chantiers ne tournent pas.
Il n'y a aucun chantier qui démarre. Sur l'île de Montréal, vous l'avez probablement remarqué, il n'y a personne sur les chantiers. Au niveau administratif, on travaille comme des fous pour essayer de trouver du travail pour nos travailleurs, mais on n'a rien. Fait que les travailleurs sont impactés, c'est épouvantable, là. On a l'impression qu'il ne se passe rien, jamais. On n'a pas d'informations qui émanent des médias non plus. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, ben, nos travailleurs, ben, ça a l'air qu'ils aiment ça avoir un salaire, eux autres aussi. Fait qu'ils aiment ça manger au moins 3 fois par jour, comme tout le monde.
Mais là, vous faites quoi avec vos employés, si vous n'avez pas de travail à leur donner?
Ben là, c'est le plus grave problème, parce que là, j'essaie de les garder tant bien que mal. Fait que là, ils finissent par être tannés de racler de la gravelle dans ma cour. C'est parce que là, j'essaie de trouver des chantiers municipaux, mais encore là, ces chantiers-là, ils ont une procédure à respecter. Donc, ils doivent passer en appel d'offres. Puis, fait que ça veut dire qu'on ne peut pas faire le chantier le lendemain matin pour une soumission qu'on a faite la veille. Ça veut dire qu'on est toujours en attente, sur le bout de nos chaises, à savoir si oui ou non on va avoir un travail demain.
Puis eux ont besoin de leurs heures, parce que ce sont des travailleurs de la construction, pour évidemment profiter des avantages sociaux, là.
Ben oui, parce que là, voyez-vous, on est au moins 8 semaines en retard. Si on compte une statistique très banale, là, 40 heures semaine, ça fait 320 heures de perdu. Et c'est pas récupérable, parce que 320 heures, on pourra pas récupérer ça à la fin de l'année, c'est impossible. Fait que ça veut dire que c'est la différence entre le plan A de la carte médic et le plan D de la carte médic. Ben les gens qui sont habitués de rouler avec le plan A, que tout est payé, ben demain matin, ils n'ont plus rien, là. Puis ça, c'est un impact qui va durer pendant un an.
Parlez-moi de l'impact pour vous, une PME. Ça veut dire pas de chantier, vous n'avez pas de revenus non plus.
Pas de chantier, pas de revenus. Je perds mes travailleurs parce qu'il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils gagnent un salaire. En plus de ça, les fournisseurs ne sont plus intéressés à financer le gouvernement parce qu'ils ont financé le gouvernement depuis belle lurette puis ça leur tente plus. Ça veut dire que quand on achète des matériaux, ben paye cash parce que tu n'auras pas. En plus, ils sont difficiles à avoir parce qu'il y a des pénuries. Fait que là, on stocke nos affaires, notre matériel dans notre cours, on paye, on prend nos travailleurs, on leur fait faire n'importe quoi, on paye, puis on n'a pas de revenus. Fait qu'éventuellement, dans pas si longtemps, ben ça va devenir plus que catastrophique, là.
Quand vous dites, là, pour que ça soit clair pour les auditeurs et les auditrices, là, les fournisseurs sont tannés de financer le gouvernement, qu'est-ce que vous voulez dire?
Le gouvernement, règle générale, paye rarement en bas de 60 à 75 jours. Rarement. Fait que s'il paye l'entrepreneur général 60 à 75 jours, ça veut dire que moi, je paye à 90, ça veut dire que je paye mes fournisseurs à 95 à peu près. Mais les fournisseurs que j'ai payés à 95 jours, c'est pas 95 jours de la facture. C'est 95 jours du moment où est-ce que moi, j'ai facturé mon client. Ça veut dire que peut-être qu'eux autres, ça fait 120 jours qu'ils m'ont vendu le matériel, qu'eux autres ont payé cash à leurs fournisseurs américains. Parce que les fournisseurs américains, eux autres, ça leur tente pas de financer le Canada. Fait que c'est là l'impact, là. À un bon moment donné, c'est une roue qui tourne, puis c'est infernal, là.
Et surtout qu'actuellement, ils ont le beau jeu dans la mesure où, comme il y a pénurie, si tu le prends, puis tu me payes, si tu le prends pas, m'a trouvé quelqu'un d'autre.
Et voilà, puis tout le monde court après. Tous les mêmes matériaux ou à peu près. Fait que tout le monde se les arrache. Fait que tout le monde paye. On stocke ça dans nos cours, puis on attend que, assis sur le bout de notre chaise, que les contrats daignent bien vouloir commencer.
Avez-vous l'impression que la je dirais que le contexte va faire en sorte, puis je parle pas juste pour votre entreprise, mais que d'autres vont malheureusement casser avec ça, là, que, si ça s'étire.
Il y en a déjà. Il y en a déjà qui ont cassé. Il y en a déjà qui commencent à avoir la langue tellement longue qu'ils savent plus s'ils vont être capables de se rendre à la fin du mois. On parle de catastrophe, là. On parle pas d'une petite affaire. Les gens, j'espère que les gens du gouvernement vous écoutent ce matin, M. Arcand, puis qu'ils vont être capables de comprendre que c'est une situation critique puis qu'il faut que ça soit réglé, puis rapidement. Parce qu'on est une province saisonnière ici. On peut pas travailler l'hiver sur les routes. C'est impossible, la terre est gelée. On peut pas faire de l'asphalte quand la terre est gelée. On peut pas installer des glissières de sécurité quand la terre est gelée. Ça veut dire que tous les travaux qui sont reportés présentement, ben on est en train de spelter une montagne gigantesque en avant. On perd nos travailleurs, on a de la difficulté à s'approvisionner, puis tout à l'heure, il va falloir faire ces travaux-là. Puis on pourra pas les faire parce qu'on n'aura pas de personnel, pas de matériel, puis surtout, pas le temps.
Vous, vous avez une vingtaine d'employés, puis votre chiffre d'affaires en temps normal, c'est entre 4 et 6 millions par année.
Oui, à peu près.
OK. Merci de nous avoir informés de ça, Mme Fleury. Bonne chance à vous.
Merci beaucoup, M. Arcand.
Au revoir. Nathalie Fleury est propriétaire et aussi vice-présidente de l'entreprise Ployeur 2000 Incorporée, je le disais, une vingtaine d'employés, 4 à 6 millions de chiffre d'affaires. Une des nombreuses PME qui gravitent dans le monde de la construction, qui fait affaire avec le ministère des Transports, indirectement ou directement, et ce conflit des ingénieurs a un effet réel. C'est un exemple parmi tant d'autres d'entreprises. Puis travailleurs, là, pensons aussi aux travailleurs qui ne peuvent pas faire leur job. Et comme elle dit, t'as beau les payer à faire autre chose, à un moment donné aussi, la réalité te rattrape, les taux d'intérêt augmentent. Alors, moi, j'ai voulu ce matin vous présenter cette réalité. Combien de chantiers, je ne sais pas. Mais visiblement, il y en a pas mal qui sont ralentis, qui sont arrêtés en raison de ce conflit de travail. Puis ça a commencé le 1er juin. Il y en a eu d'autres avant. Puis on sait que la négo semble bien difficile. J'ai beaucoup, beaucoup d'ingénieurs du ministère qui m'envoient des tableaux comparatifs sur leurs conditions de travail par rapport au privé. Moi, je ne me mêle pas de la négo. T'sais, n'oubliez pas, à un moment donné, Sonia Lebel avait dit comment ça se fait qu'ils sont sortis. Puis là, on reprend la négo, ils ressortent à nouveau. Alors, ça a l'air d'un dialogue de sourds, en tout cas. Peu d'écho, pas beaucoup de fumée blanche. Mais pour ces entreprises-là, ces PME, puis ces travailleurs de la construction, je vais dire une chose, de ce temps-là, on a besoin de tous les sous nécessaires pour être capable de payer les factures.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Après le SPVM, c'est la police de Laval qui a présenté hier son rapport, rapport annuel. Et encore là, on le voit, les épisodes de coups de feu, les épisodes de violence contre la personne sont en augmentation. Je vais en parler ce matin avec Jean-François Roussel, qui est assistant directeur aux enquêtes du service de police de Laval. Monsieur Roussel, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
C'est quoi le portrait à Laval là, depuis, disons, un an ou deux? Comment ces crimes-là ont évolué et aussi donc augmenté?
Ben en fait, d'entrée de jeu, vous avez tout à fait raison. Là, on constate une hausse de 25% là des crimes contre la personne au niveau de notre ville, ce qui est similaire du côté de Montréal également. Là, donc, on s'inscrit dans la même veine. Et ben chez nous, je vous dirais, un des phénomènes que l'on parle de depuis plusieurs semaines, puis clairement qu'il y a un impact sur ça, c'est la hausse du phénomène des coups de feu. Vous savez, M. Arcand, en 2019, en fait, même avant 2019, on ne répertoriait pas vraiment les événements de coups de feu parce qu'il y en avait très peu. Mais par contre, à partir de 2019, on a commencé à les répertorier parce que on voyait vraiment le phénomène s'implanter. Donc, on est parti de 18 événements de coups de feu en 2019 à 42 en 2021. Donc, c'est clair pour nous que c'est un phénomène qui est préoccupant et pour lequel on y met beaucoup d'efforts, d'énergie et de ressources.
Le SPVM mentionnait dans son rapport qu'au début, il y avait quelques arrondissements qui étaient touchés. On peut penser à Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies. Et que maintenant, tous les postes de quartier, donc dans tous les arrondissements, on a eu au moins un événement. Chez vous, est-ce qu'il y a des zones plus chaudes? Est-ce que ça touche Laval au grand complet? C'est quoi, de façon géographique, la répartition de ces événements-là?
Ouais, je vous dirais effectivement là, il y a quelques secteurs chez nous qui ont été impactés, mais je vous dirais là, ça se concentre vraiment là. Puis l'analyse qu'on a faite, c'est 62% des fusillades ont eu lieu dans le secteur Chaumédé. Faut quand même rappeler pour les auditeurs qui restent pas à Laval, le secteur Chaumédé englobe le Centropolis. Donc c'est là que il y a une densité de population, la population flottante en lien avec la restauration, les bars, là, c'est là qu'elle se situe. Là. Donc, l'activité nocturne, c'est là que ça se passe.
Est-ce que vous savez qui se tire comme ça? En fait, qui tire sur qui exactement? Puis pourquoi ces jeunes-là, là, on présume qu'ils sont tous... pourquoi ils se tirent dessus?
Ben écoutez, c'est ce qui est difficile avec le phénomène, hein, parce que c'est pas toujours des raisons qui sont précises, je vous dirais, ou qui seraient logiques là, selon une perspective qu'on a connue dans le passé, par exemple avec la guerre des motards. Hein. Vous savez, des fois, un simple conflit sur Internet, par exemple, des gens s'invectivent par rapport à une blonde ou à un ami ou à peu importe, puis là, tout de suite après, ce qu'on constate, bien, c'est qu'il y a une maison qui reçoit des coups de feu en guise de message. Donc, antérieurement, ce qu'on voyait, il y a eu des guerres de gangs de rue, là, on les voyait, il y avait des voies de fait, il y avait l'utilisation d'armes blanches, il se passait des messages, ils pouvaient faire des graffitis. Mais ce qu'on constate avec le phénomène, c'est que les armes présentement sont disponibles sur la rue. Ils les achètent, ils les utilisent. Et c'est ce qui change avec ce phénomène-là, c'est que pour passer leur message, bien, au lieu de faire un graffiti, par exemple, bien, ils vont aller tirer sur la maison du membre de l'autre gang. Donc, c'est un phénomène qui est très impulsif, je vous dirais, très réactif. Donc, c'est ce qui cause la difficulté de suivre le phénomène, en fait.
Et est-ce qu'il y a des liens entre les gangs de Laval et les gangs de Montréal?
Bien, vous comprendrez, M. Arcan, que c'est pas un pont, une rivière qui les arrête. Hein. Effectivement, on voit nos sujets traverser le pont, aller à Montréal-Nord, aller dans d'autres régions de Montréal. On voit l'inverse, c'est aussi vrai. On voit aussi des conflits entre nos gangs. J'ai en tête une gang qui s'appelle les Chaumédé 45 qui ont de nombreux conflits là, du côté de Montréal. Et c'est là où ce que le projet Centaure prend tout son sens, M. Arcan. C'est là qu'en fait, le projet Centaure nous permet, là, nous, aux organisations policières, de nous coordonner, de nous partager de l'information entre nous, donc avec soit le IELTA sous la Sûreté du Québec ou avec les MAF du côté de Montréal. Puis c'est vraiment de cette façon-là qu'on est plus proactif dans nos actions policières et plus agile. Donc, on maintient ça et je vous dirais la collaboration est excellente pour le moment.
Je parlais avec votre directeur, M. Brochet, la semaine dernière, suite au meurtre dans un restaurant vietnamien familial d'un individu relié au crime organisé. Là, on parle pas de gang de rue. Il y a eu dans les heures, j'allais dire, même les jours qui ont suivi, des opérations pour mettre de la chaleur sur des organisations. Est-ce que ça se passe tous les jours? Autrement dit, est-ce que vous faites le tour des endroits que fréquentent ces gens que vous connaissez associés à des gangs de rue pour, leur mettre de la pression?
Bien, j'entendais à votre antenne hier, je crois, un chercheur qui parlait de méthodologie là, utilisée aux États-Unis comme par exemple les hotspots. Puis c'est comme ça qu'on a bâti notre plan d'action à Laval. Le renseignement, c'est le premier axe qu'on utilise. Donc c'est vraiment le renseignement criminel qui dicte où et qui sur qui nous allons faire les opérations policières. Ce que vous avez vu, suite à l'événement à la perle vietnamienne, c'est effectivement dans ce sens-là. On a, avec nos collègues de Centaure et les autres collègues là, des autres municipalités, on s'est coordonnés pour vraiment cibler les établissements à problème pour, un, rassurer la population, mais surtout pour passer un message aux crime organisés pour leur dire « On est là, on sait où sont les établissements, on va être présent ». Maintenant, on fait la même chose, je vous dirais, au niveau des crimes qui sont plutôt orientés sur les gangs de rue. Donc, on connaît nos sujets, on les identifie, on on sait ceux qui ont des conditions à respecter et c'est comme ça qu'on est très proactif sur le terrain. On utilise nos escouades comme Azimut, comme la patrouille à vélo, comme la gendarmerie, Equinox qui est dans les endroits licenciés. Puis le renseignement criminel chez nous les dirige, les oriente vraiment pour leur mettre un maximum de pression pour pas qu'ils puissent se promener de façon libre et volontaire et faire la pluie puis le beau temps dans nos rues. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on maintient la sécurité à Laval puis qu'on veut maintenir le sentiment de sécurité de nos citoyens.
Là. Merci, M. Roussel. Bonne journée.
Merci, M.
Roussel. Au revoir. Jean-François Roussel est assistant directeur aux enquêtes au service de police de Laval.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Maintenant, on va parler de la guerre en Ukraine, bien sûr. Il y a quand même beaucoup de nouvelles ce matin. D'abord, on sent que dans le Donbass, c'est la zone qui était déjà pro-russe, mais qui est ciblée par la Russie. Et ça donne lieu à de violents combats. Fabrice de Pierrebourg est sur place. Fabrice, là, pour être très clair, tu te trouves actuellement à Soledar. C'est justement dans le Donbass.
Oui, c'est ça. C'est à quelques dizaines de kilomètres au sud de Severodonetsk et de Lysychansk. C'est vraiment là que le front, on est au milieu finalement de ce très long front entre l'Ukraine et les forces russes et les forces rebelles pro-russes. Et hier, Paul, le président Zelensky disait que c'est une bataille très féroce qui allait peut-être déterminer le sort du Donbass et que c'était l'une des plus difficiles de cette guerre. Et depuis le milieu de la matinée, on est allé vraiment dans la région. Et Paul, c'est essentiellement une bataille d'artillerie, d'obus et de missiles. Il y avait des moments où il y avait des détonations, soit d'obus qui partaient du côté ukrainien vers le front russe, soit les Russes qui tiraient dans toute cette grande région jusqu'à Kramatorsk. Et il y a des moments où c'était vraiment des salves d'obus et d'artillerie. C'était très impressionnant. Et j'ai eu la chance d'aller avec une organisation locale dont le but est d'aller chercher des femmes souvent très âgées qui sont sur cette ligne de front, près de cette ligne de front. Donc, on a embarqué dans un bus avec eux. Et sur la route, c'était vraiment... j'ai mis quelques photos sur mon compte Twitter. Beaucoup de fumée, de bombardement. On a même trouvé, à un moment donné, un énorme missile de croisière longue portée russe qui était dans le champ. Et on a embarqué un jeune garçon, d'ailleurs, qui marchait là et qui nous a expliqué que toute la nuit, ça a été vraiment que ça, que des bombardements, des missiles. Certains ont été interceptés au-dessus. Donc... C'est plus une bataille d'artillerie. Et plus tard, on a pu discuter avec des soldats qui étaient devant l'hôpital de Bakhmut, donc un petit peu au sud, et ils étaient littéralement épuisés, Paul. Et il y en a un, mais vraiment, il s'est mis à pleurer devant nous. Il a vu qu'on était journaliste, il est venu nous voir avec mon collègue fixeur, et il nous a dit, ben, on n'y arrivera jamais, quoi. Parce que les fameuses armes que l'Occident nous promet, ben, nous, ici, on n'en a pas, on n'en a pas trop. Et on est obligé d'affronter cette deuxième armée au monde, qui est la deuxième armée au monde en théorie, au moins en nombre d'hommes, avec des Kalachnikovs et des mitrailleuses. Et il y en a un qui nous a montré d'ailleurs une vidéo sur son téléphone qu'il a filmé de son poste d'observation. Et il nous a regardé, on entendait les détonations, puis lui, il avait que sa Kalachnikov pour se défendre. Donc on voit beaucoup d'émotions chez ces soldats, une grande fatigue, et ils ont vraiment hâte qu'effectivement... L'Occident envoie toutes les armes promises, quoi.
Est-ce que ça se confirme, en fait, des informations qu'on a vues au début de la semaine, que la Russie concentre là où elle a des chances de l'emporter, donc le Donbass, déjà sous influence russe? On se rappelle, l'initiative du départ, c'était de dire on va renverser le gouvernement Zelensky, on va attaquer la capitale. Ça ne s'est pas passé comme ça. Alors que, donc, on a décidé vraiment là, de concentrer les troupes aux endroits où on a le plus de chances de l'emporter.
Oui, puis moi, j'ai vu à Kiev il y a quelques jours, Paul, et effectivement, il n'y a plus aucun soldat russe jusqu'à la frontière. Toutes ces zones-là, maintenant,
est libre. D'ailleurs, à Kiev, la vie normale a repris, mais dans le Donbass, c'est autre chose, quoi. Et on voit quand on regarde, c'est un front qui est très mouvant, qui fait des vagues, qui n'est pas linéaire. Et on voit que les Russes essayent de prendre en tenaille des larges portions du territoire du Donbass. Là où on est, on voit que le front, il est au-dessus de nous, en dessous de nous et sur le côté est. Et on voit très bien qu'ils cherchent à se refermer, quoi, et à enfermer une partie des troupes ukrainiennes. Et surtout, ils veulent capturer Kramatorsk, qui est devenu la capitale du Donbass ukrainien, parce que une partie du Donbass a été prise par les rebelles pro-russes en 2014, après une guerre très féroce. Donc, ils veulent vraiment prendre cette ville-là, qui est située à peu près à 20-30 kilomètres d'où on est, quoi.
En terminant, un mot sur les civils. Tu parlais de ces femmes, surtout là, ces personnes âgées qu'on tentait d'aller chercher. Est-ce qu'il reste beaucoup de civils dans ces secteurs?
Ben, il y en a certains, oui. Dans certains villages, moi, j'ai vu qu'il y avait encore du monde. Mais c'est toujours la même chose, quoi. C'est beaucoup des personnes âgées ou des gens qui ne savent pas où aller d'autre, quoi. C'est-à-dire que ceux qui partent, ben, ils sont évacués vers l'arrière. Certains ont de la chance d'avoir de la famille dans d'autres pays d'Ukraine, dans d'autres coins d'Ukraine. Mais la plupart restent. Puis il y en a aussi qui sont quand même forcément sympathiques aux Russes, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de russophones ici. Puis dans le Donbass, il y a une partie de la population qui est pro-russe.
Très bien. Merci, Fabrice. Bonne journée à toi. Fabrice de Pierrebourg qui nous parle en direct de l'Ukraine ce matin. Notre envoyé, mais aussi travaille pour Le Soleil et les coop de l'information. Étude publiée aujourd'hui par l'Institut du Québec. Et c'est assez étonnant. Et vous allez voir pourquoi. On apprend que lorsqu'une femme quitte le cégep ou l'université avec son diplôme, arrive sur le marché du travail la première année avec le même profil d'études qu'un gars dans un secteur comparable, en partant, elles vont faire moins d'argent. Et une étude qui s'est étalée sur une période de 5 ans, puis on voit des variations quand même assez importantes, difficiles, je vous dirais, à comprendre. Emna Braham est avec nous, directrice adjointe de l'Institut et co-autrice du rapport. Madame Braham, bonjour.
Bonjour.
Peut-être nous dire les grandes lignes qu'on comprenne bien. Il y a donc un écart chez les femmes diplômées qui arrivent sur le marché du travail dès la première année?
Oui, pour donner un peu de contexte, on a eu accès à une base de données inédite de Statistique Canada qui nous a permis de suivre les diplômés des cégeps, des universités lorsqu'ils commencent à travailler et de voir les différences des revenus entre les hommes et les femmes. Il y a vraiment 3 choses qui distinguent notre étude. À la différence de plusieurs recherches qui ont été faites, on s'est vraiment concentré sur les premières années après la sortie des études. On a pu suivre dans le temps les mêmes diplômés 1 an, 2 ans, 5 ans après la sortie des études. Puis on a vraiment comparé des femmes et des hommes qui avaient le même parcours. Et contrairement à la croyance populaire, c'est vraiment pas seulement à l'arrivée des enfants que l'écart se crée. Il y a des différences de revenus entre les femmes et les hommes dès la première année.
Et donc, ça commence, j'allais dire, selon ce que je vois ce matin, c'est autour de 10 %, mais ça va en augmentant lorsqu'on avance en carrière.
Exactement. Donc, si on considère une femme, un homme qui ont le même diplôme, qui ont étudié la même chose, qui travaillent dans le même secteur, qui ont le même nombre d'enfants, s'ils en ont, l'écart de revenu, il est de 9 % dès la première année après l'obtention du diplôme. Puis 5 ans après, c'est pire et ça atteint 16 %.
Est-ce que c'est vrai dans tous les secteurs?
Nous, on a pu contrôler pour l'ensemble des secteurs. Donc, il y en a où c'est plus élevé, d'autres où c'est plus faible. Mais en moyenne, c'est dans 9 % dès la première année.
Bon, la question, évidemment, puis je ne sais pas si vous avez quelques réponses, mais pourquoi il y a un écart comme celui-là, encore aujourd'hui?
Bien, il faut se rappeler que les écarts de revenus, ils ont beaucoup diminué pendant les dernières décennies parce que les femmes sont de plus en plus scolarisées. C'est plus de la moitié de nos diplômés postsecondaires. On a mis en place des lois sur l'équité salariale, des politiques familiales qui ont réduit en partie ces inégalités. Mais depuis les années 2010, on fait du surplace. Puis c'est plus difficile de mettre le doigt sur les causes exactes des écarts qui restent. Mais nous, on en a identifié quelques-unes. La première, c'est qu'on voit que les femmes choisissent moins de travailler pour les employeurs qui payent le mieux au Québec. Donc, ça peut être un choix personnel. On préfère travailler pour une entreprise qui va offrir une meilleure conciliation travail-famille, mais qui offre un moins bon salaire, par exemple. Mais ça peut aussi venir de ces employeurs qui, eux-mêmes, n'arrivent pas à offrir les conditions, par exemple les horaires, l'atmosphère de travail qui vont être attrayantes pour les femmes. Une autre explication possible, c'est on voit que les compétences en numératie, tout ce qui est maths, TI, sont de plus en plus recherchées puis payantes sur le marché du travail. mais les hommes sont encore plus nombreux à travailler dans des métiers où on a besoin de ces compétences-là. Donc, eux, ils continuent à développer ces compétences-là pendant leur carrière, alors que les femmes en ont moins l'occasion. Puis une autre chose qui a été documentée, c'est que les femmes semblent négocier moins leur salaire à l'entrée que leurs collègues. Puis il y a plusieurs explications possibles pour ça. Elles pourraient négocier plus, par exemple, les avantages sociaux ou d'autres conditions que leur salaire. Elles se sentent pas toujours légitimes de demander plus, mais on voit aussi qu'elles pourraient être pénalisées socialement. Ça veut dire que on accepte un salaire moins élevé pour avoir des relations de travail plus harmonieuses.
Si, j'ai pris des notes là, pendant que vous parliez. Si je résume, ce que vous me dites dans le fond, c'est que pour la femme, dans certains cas, tout le moins, là, le salaire est peut-être moins important que des conditions de travail, c'est-à-dire peut-être la proximité, peut-être une entreprise plus petite à une échelle plus intéressante, avoir d'autres types d'avantages, alors que le gars est plus à l'argent pur, au chèque de paye.
Il y a quelques sondages qui indiquent ça, puis on voit qu'elles elles font des choix différents sur le marché du travail. C'est des choix qui sont pas faits sous la contrainte, mais qui peuvent expliquer les écarts que nous, on voit dans les données.
J'ai fait le tour avec mes collègues tantôt, gars-filles, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que ça se peut que beaucoup de femmes se sentent pas encore tout à fait assez en confiance pour revendiquer des postes, pour accepter même quand on leur propose des postes, donc plus de responsabilités, d'accepter aussi plus de salaire, être capable d'aller chercher, de mieux négocier. Il n'y a pas un gars qui se remet en question quand on lui fait une proposition. Il y a des femmes qui se disent « Oui, mais est-ce que je suis rendu là? Quel est l'impact? » qui s'interrogent davantage que le gars.
Tout à fait. Puis on a beaucoup entendu parler du plafond de verre, donc que les femmes... Oui. n'accédaient pas ou n'acceptaient pas toujours les plus hauts postes, les postes de PDG, les sièges dans les conseils d'administration, etc. Mais ce qu'on montre vraiment, c'est que dès le début de leur carrière, les femmes, elles ont plus de mal à gravir les échelons et à atteindre les jobs les plus payants. Donc, dès le début de leur carrière.
Parfait. Ça fait jaser, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Au revoir. Emna Braham est directrice adjointe de l'Institut du Québec et co-autrice de ce rapport. J'aurais pas le temps ce matin, je pense, pour une tribune téléphonique, mais c'est sûr là, que c'est un sujet. Pourquoi les femmes? Puis là, vous allez me dire, il y a peut-être des employeurs aussi qui font encore de la discrimination, ça se peut, là. Mais quand une femme arrive avec le même diplôme qu'un gars, cégep, université, pourquoi il y a des écarts? Puis pourquoi aussi l'écart se creuse au fil des ans? Il y a des auditeurs qui m'ont écrit ce matin en disant, peut-être que ça prendrait un meilleur partage aussi dans un couple quand les enfants arrivent. Des responsabilités, des congés, des tâches. C'est parti dans l'univers.
L'essentiel de Paul Arcand.
Bon, il y a tout un débat depuis quelques jours concernant... D'abord, c'est parti de l'histoire de cette femme qui a été interpellée les seins nus par la police de Québec. On a le droit d'avoir les seins nus. C'est pas illégal. Dans la mesure, il y a une condition, là, qu'il n'y ait pas d'action indécente qui soit associée. On se souvient également de ces femmes... qui est en train d'allaiter, qui avait été ramené à l'ordre, entre guillemets, par un agent de sécurité. Finalement, on avait avoué, ça se passait au centre-ville de Montréal, que ça n'a pas de bon sens. Une femme, en 2022, peut très bien allaiter. Il n'y a pas d'enjeu là, c'est pas un scandale. Et il y aura manifestation « Libérer les seins » qui aura lieu au Parc du Mont-Royal ce dimanche. Alice Lacroix est avec nous, c'est l'instigatrice de cette manifestation, de ce rassemblement. Madame Lacroix, bonjour.
Bonjour.
D'abord, où vous en êtes là, dans les préparatifs? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui confirment leur présence?
Ah oui, on est rendu à près d'une centaine de personnes.
Je vous entends mal, pourriez-vous répéter?
On est rendu à presque une centaine de personnes.
Une centaine de personnes. Et qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que vous allez faire dans le parc?
En fait, on a appelé ça une manifestation subtile parce que justement, le but, c'est tout simplement de faire ce qu'on ferait toute seule. On va le faire en gang, question de se protéger un peu. Mais donc, ça va juste de passer une journée au tam-tam, de profiter de la journée et de le faire seins nus.
OK. C'est vraiment ce qui s'est passé à Québec qui vous a incité à le faire ou si déjà vous étiez impliqué?
Ben c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en tête. C'est un combat qu'on entend souvent. Ce qui s'est passé avec Héloïse à Québec, ça a été le déclencheur. Puis aussi de voir que toutes mes amies, en fait, avaient commenté « Let's go, on le fait ». Alors, je me suis dit « Bon, on va le faire pour vrai au lieu de juste en parler longtemps ». Et puis, ça a fait le bout de boule de neige un peu.
OK, donc vous allez le faire, et mais en même temps, c'est légal. Ce que je veux dire...
Oui, c'est légal, c'est une question de changer les mœurs. On va le faire surtout pas pour se battre. Justement, c'est pour ça que c'est une manifestation subtile. C'est vraiment juste pour habituer les gens, pour que les gens le voient, pour que les gens comprennent que c'est le nouveau normal et que c'est acceptable.
OK. Vous, avant l'événement, est-ce que vous le pratiquez dans des parcs, des activités, de dire « c'est j'ai le droit de le faire, donc je le fais ».
Ben non, mais justement, moi, je ne l'ai jamais fait personnellement par peur de jugement ou juste ne pas avoir le désir de dealer avec ce qu'Éloïse a dealé, de pas avoir la force de faire ça toute seule, de se faire altercer par 5 policiers quand on est toute seule et topless, c'est vraiment pas une expérience agréable. Donc, moi, je ne l'ai jamais fait, mais ça va me permettre de casser la glace en faisant avec cette gang-là la manifestation. Puis, j'ai l'intention dans le futur de continuer à le faire là, dans les moments appropriés. Là.
On voit que c'est un débat qui amène beaucoup de commentaires, beaucoup de points de vue. Des gens, par exemple, qui, au nom de la religion, disent qu'il faut complètement habiller la femme de la tête aux pieds pour qu'elle ne suscite pas l'envie. D'autres qui disent, ouais, mais si vous promenez les seins nus, c'est un symbole sexuel pour les gars. Vous allez être regardé, vous allez vous faire dévisager. Vous courez après le troupe. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Écoutez, on a eu ce même débat-là dans les années 60 à l'apparition de la mini-jupe. Pour moi, c'est juste une question d'évolution. C'est une question aussi de se responsabiliser soi-même. Je veux dire, dans les écoles, on apprend aux jeunes filles que si elles s'habillent sexy, elles vont déranger les garçons et que ça, c'est de leur faute, que c'est à elles à changer, c'est à elles à s'habiller et à se couvrir. Alors, il faudrait peut-être un petit peu tourner les choses puis responsabiliser les garçons pour leurs émotions. C'est à eux à apprendre à gérer. C'est à eux à regarder ailleurs quand il y a quelque chose qui les dérange.
Vous avez parfaitement raison. C'est pas à vous à gérer les pulsions du mâle, c'est au mâle à se gérer lui-même.
Mm-hmm. Puis je pense même que pour l'argument religieux, honnêtement, je pense que plus c'est normalisé, moins ça va déranger justement, puis moins il va y avoir de pulsions à ce sujet-là. On pense en Europe où toutes les plages être topless est complètement permis et acceptable. Personne qui regarde, personne qui fait de commentaires désobligeants. Force de le faire ici, ça va devenir comme ça. Ça sera plus, ça va être aussi banal qu'une paire de cuisses en short.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Merci. Bonne journée.
Au revoir. Alice Lacroix, qui est l'organisatrice, on veut, de cette manifestation tout en subtilité. Libérer les seins, qui aura lieu au Parc du Mont-Royal ce dimanche.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.